France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, direction le Chili, où un gourou allemand a sévi pendant 40 ans à la tête d'une secte. Fort de son ascendant sur ses fidèles, il les a astreints de longues journées de labeur, sans contrat de travail, sans salaire et sans jours fériés, bien sûr. Pire, pédophile, il a abusé, violé des dizaines d'enfants, voire des centaines, exigeant chaque nuit la présence de l'un d'eux dans son lit. Et ce n'est pas tout. À partir de 1973, pendant la dictature de Pinochet, il a mis son domaine à la disposition des tortionnaires de Pinochet contre les militants de la démocratie et de la République sociale d'Allende. Ce lieu bien mal nommé s'appelait Colonia Dignidad, colonie dignité. Derrière une façade avenante, cet homme donc, fondateur et gourou, manipulateur hors pair, Paul Schaeffer. C'est son histoire, et surtout celle de tous ceux qu'il a entraînés derrière lui, que nous allons vous raconter aujourd'hui. C'est aussi l'histoire d'une secte malfaisante que ni les autorités allemandes, ni les autorités chiliennes, même après la dictature, n'ont voulu voir ni empêcher de nuire. Notre invité aujourd'hui, William Bourdon, avocat. Il a défendu les familles de quatre franco-chiliens qui ont disparu au Chili pendant les années 70. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Odile Conseil, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Nous sommes à 350 km au sud de Santiago, dans une nature splendide où une rivière galope joyeusement au milieu des forêts, surplombée par les neiges éternelles des Andes qui bordent le paysage. C'est ici que la colonie Dignité est créée en 1961. Au départ, quelques dizaines d'hectares au milieu de nulle part, la ville la plus proche, Parral, est à 40 km. Les colons allemands font rapidement de ce lieu un petit coin de paradis. Ils défrichent, construisent, sèment. Les images filmées à l'époque, car plusieurs personnes étaient affectées à enregistrer le bonheur à l'état brut de la colonie. Ces images montrent des groupes d'individus travaillant avec l'enthousiasme des pionniers. Des scènes qui pourraient rappeler celles des kibbutzim des premiers temps d'Israël. Sauf que, ici, il ne s'agit pas de mettre en œuvre un idéal socialiste, bien au contraire. Comme le rappelait Monsieur X dans l'émission de France Inter du même nom en mai 2004.
Il veut faire de cette entité territoriale une sorte de petite société nazie, quasi autarcique et extrêmement prospère. Et pour cela, forcément, il va peu à peu grignoter les terres qui se trouvent autour. Assez rapidement, la colonia regroupera presque 15 000 hectares. Une véritable petite ville avec son école, son service de santé, ses industries et son agriculture. Et même son aérodrome.
Tous les ingrédients y sont. Une population aveuglée, alléchée par les belles promesses d'un chef charismatique. Une propagande tous les instants, pas de journaux, pas de radio, pas de téléphone. Des victimes, les enfants violés et les opposants politiques torturés, souvent à mort. Un univers concentrationnaire, entouré de murs avec barbelés, miradors et chiens policiers. Tel est le royaume qu'a bâti un homme tout à la fois gourou, pédophile et assassin. Un homme dont l'emprise aura durablement pesé sur ses fidèles. Le 24 avril 2010, un vieil homme meurt en prison à Santiago du Chili. Il est allemand, il a 88 ans, il s'appelle Paul Schaeffer. Il a passé 5 ans derrière les barreaux. Mais avant cela, il a régné pendant 40 ans sur les membres de la Colonia Dignidad, maître des corps et des esprits, maniant tout autant la caresse que l'insulte. Il était le chef, le gourou, le demi-dieu de ce petit coin d'Allemagne, adulé par ceux qu'il avait entraînés avec lui et qu'il avait privé de tout esprit critique. Mais qui est donc ce Paul Schaeffer? Au départ, il n'est personne, ou presque. Signe particulier tout de même, chez cet homme né en 1921 à Bonn, il a un œil de verre, non pas à cause d'une blessure reçue à la guerre, comme il l'affirme souvent, non, il s'est blessé tout seul avec une fourchette. Une infirmité qui lui interdit de combattre parmi les Waffen-SS qu'il admire. Lui fait la guerre comme rancardier dans la Wehrmacht, rien de très héroïque. Alors, aurait-il voulu se rattraper? Comme en témoigne ce texte extrait de l'ouvrage La colonie de Dr. Schaeffer, de Maria Poblet et Frédéric Ploquin, publié chez Fayard en 2004.
En avait-il conçu de l'amertume? Vraisemblablement. Plusieurs principes chers au régime nazi avaient d'ailleurs servi d'armature idéologique à la Colonia Dignidad. glorification du travail, eugénisme, soumission des êtres et des âmes, suprématie de l'homme sur la femme, système de répression militarisé. Ce petit foyer européen transplanté dans les Andes s'employait à ne pas démériter du fascisme.
Paul Schaeffer n'aurait pu être qu'un raté ordinaire, mais il a un don. Il parle beau, il sait convaincre, il plaît. Son grand front, son sourire facile inspire confiance. Au lendemain de la guerre, le voilà d'abord animateur pour la jeunesse dans une paroisse de Basse-Saxe. Et les gens l'adorent. Devant l'enthousiasme qu'il suscite, il crée une église évangélique, s'autoproclame prédicateur, affirme que Jésus lui parle directement et qu'il n'a pas besoin de l'église pour trouver Dieu. Mais son goût marqué pour les jeunes gens, qu'il convie chez lui la nuit, finit par agacer le pasteur, qui le congédie. En 1956, il fonde une communauté à Heide, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, et ouvre un foyer qui accueille des orphelins ou des enfants de familles pauvres, des garçons surtout. Grâce au travail acharné de ses fidèles, l'endroit est bien équipé. Il y a une piscine, un atelier de peinture, des nichoirs pour les oiseaux, et même un élevage de porcs, car il s'agit de vivre le plus possible en autarcie. Lors de l'inauguration officielle, début 1960, Schaeffer invite des notables et même une représentante du gouvernement fédéral. La télévision est là aussi, qui couvre l'événement, c'est dire l'influence et la bonne image de son fondateur. Mais rapidement, Paul Schaeffer est suspecté d'entretenir des relations coupables avec les enfants de l'orphelinat. Alors il cherche à quitter l'Allemagne pour échapper à la justice. Et la chance, si l'on peut dire, est avec lui. Elle se présente sous les traits d'un séisme meurtrier au Chili en mai 60. Un séisme qui cause plus de 1600 morts au Chili et fait des dégâts considérables. Un reporter de la radio décrit ainsi ce qu'il voit lorsque l'avion qui l'emmène arrive au-dessus de Valdivia, la ville du sud du pays, épicentre de ce séisme.
Quelques minutes avant d'atterrir, nous survolions des fleuves de 200 à 300 mètres de largeur. Seuls des toits de maisons et des cimes d'arbres apparaissaient. Et 15 jours plus tôt, ce n'était encore que de paisibles ruisseaux de quelques mètres. Et l'eau y était douce. Valdivia, à 30 km de la mer, était un port fluvial. Valdivia est aujourd'hui un port de mer à construire. J'ai marché dans les rues pendant des heures. Il ne reste pratiquement rien de cette ville de 120 000 habitants. La perle du sud chilien, le grand centre industriel, ancien repère de corsaires dont le plus célèbre était Sir Francis Drake.
Paul Schaeffer fait la connaissance de l'ambassadeur du Chili à Bonn lors de l'inauguration de la Maison des Jeunes. Celui-ci, emballé par ce qu'il a vu, lui lance « Ce sont des gens comme vous qu'il faudrait au Chili. » Ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Schaeffer reprend donc contact, propose de venir au Chili pour aider les pauvres. On l'accueille à bras ouverts, sans vérification. Il obtiendra au total 300 autorisations d'entrée sur le territoire et pourra acheter un terrain pour les 300 adeptes de la secte. La Colonia Dignidad est née. Schaeffer fait d'abord venir d'Allemagne ceux de ses adeptes qui lui seront le plus utiles, artisans, ingénieurs, infirmières. Il les convainc en affirmant que Dieu lui a ordonné d'émigrer au Chili avec sa communauté pour y préparer l'arrivée du Christ. Bien. En quelques mois, quelques années, des constructions s'élèvent. Des chants apparaissent, la vie collective s'organise autour de deux mots. Travail et prière, réunis dans une formule récurrente dans la bouche du gourou. Travailler, c'est servir Dieu. Une formule qu'il applique assez peu à lui-même. Comme le précise le documentaire Colonia Dignidad, une secte allemande au Chili, signé par deux réalisateurs allemands, Annette Baumeister et Wilfried Huismann, diffusé sur Arte en août 2022.
Tous les matins, à 4 heures, ils se rendent dans les champs et sur les chantiers.
On s'est habitué. À l'époque, j'avais 26 ans. On s'est fait à l'idée que les débuts seraient durs.
Tous prennent part aux travaux, y compris les enfants. Il n'y a pas d'école. La matinée de travail se termine à 11 heures, quand Paul Schaeffer vient tout juste de se lever.
Il avait droit à un petit déjeuner spécial, une assiette bien présentée avec des tartines et du jambon. Il était vraiment traité comme un roi.
Puis le maître des lieux se recouche. Tous les autres, eux, continuent de travailler.
Le soir, après le travail, pas question de s'écrouler dans son lit. Schaeffer prêche, souvent jusqu'à minuit. « Qu'as-tu fait pour Dieu aujourd'hui ?» demande-t-il aux uns et aux autres sur un ton autoritaire et probablement inquiétant. La colonie est construite, elle est même prospère, puisqu'elle exploite une carrière dont elle vend le gravier nécessaire à la reconstruction après le tremblement de terre. On y élève des animaux en nombre, on y pétrit et on y cuit quotidiennement du pain et des gâteaux. Il y a aussi un hôpital où les Chiliens des alentours peuvent se faire soigner gratuitement. Beaucoup d'enfants seront sauvés de la mort par malnutrition. Une façon astucieuse de mériter son nom officiel de société de bienfaisance et d'éducation dans la dignité. La façade est honorable, les autorités chiliennes apprécient, à tel point que la colonie gagne l'étiquette d'utilité publique qui l'exonère de payer des impôts. Et elle s'enrichit et elle s'agrandit. Rapidement, elle s'étend sur 15 000 puis 17 000 hectares, soit presque deux fois Paris. L'emprise de Schaeffer, elle, se resserre sur ses troupes. Les familles sont démantelées. Hommes et femmes vivent nuit et jour sans contact. Les enfants sont arrachés à leurs parents, filles d'un côté, garçons de l'autre, confiés à la garde exclusive d'oncles et de tantes. D'ailleurs, Schaeffer s'est fait appeler El Tio Permanent, l'oncle éternel. La vie des colons était rude, elle devient terrible. Avoir des secrets interdits. Chaque soir, le docteur Schaeffer confesse publiquement tel ou tel disciple, insultant et traînant plus bactère les fautifs. Il est particulièrement hargneux et méprisant à l'égard des femmes qu'il considère comme des êtres de seconde catégorie. Elles ne sont plus autorisées à participer aux réunions de la secte. Leur seul horizon, c'est le travail. Leur seul devoir, l'obéissance. Mais hors des murs de la colonia, le Chili change. En octobre 70, Salvador Allende est élu président de la République à la tête de l'Union Populaire qui rassemble les partis de gauche. Une révolution légale a lieu dans le pays. Le peuple chilien qui aspire à l'égalité et à une vie digne est en liesse. Retour sur ce moment d'enthousiasme populaire lors de la prise de fonction du nouveau président le 4 novembre 70. Extrait du documentaire « Le dernier combat de Salvador Allende » de Patricio Enriquez.
Novembre 1970, le socialiste Salvador Allende accède à la présidence du Chili. Il déclare alors « Avec moi, c'est le peuple qui entre à la moneda ». Porté par la coalition gauche de l'unité populaire, sa victoire avait été un coup de tonnerre dans le paysage politique chilien et bien au-delà, en Amérique comme en Europe.
Salvador Allende applique son programme. Il met en place des réformes économiques, comme le gel des prix et la hausse des salaires. Il nationalise les banques et les mines de cuivre, principales ressources du pays alors dans les mains américaines, et entame une réforme agraire d'importance. À la Colonia Dignidad, c'est la consternation. On imagine bien que Schaeffer, imprégné de l'idéologie nazie, surhomme élu de Dieu, n'est pas exactement un adepte du partage des richesses. Alors, une contre-attaque rapide s'impose. D'abord, faire de la colonie un camp fortifié, une clôture de barbelés ceinture le lieu. « Nous avons construit notre propre prison », dira plus tard l'un des membres de la secte. Des tours de surveillance sont érigées, des fils déclencheurs de pièges installés, des tunnels creusés, des bunkers construits. Schaeffer, toujours en lien avec l'Allemagne où la secte a une antenne, se fait envoyer quelques armes. Elles servent de modèle pour en fabriquer sur place parce qu'il faut que chaque colon masculin en soit équipé. Les jeunes hommes sont formés au combat, les rouges vont certainement attaquer. La paranoïa assidûment entretenue bat son plein. Schaeffer est approché par le mouvement d'extrême droite paramilitaire Patria y Libertad, créé en 1970, avec comme seul objectif de renverser le régime d'Allende. La réputation d'ordre et de discipline, le savoir-faire allemand, si je puis dire, les intéresse beaucoup, tout comme les armes fabriquées à la Colonia. Via Patria y Libertad, Schaeffer noue des contacts cordiaux et fructueux avec des généraux chiliens et des chefs d'entreprise. C'est qu'ils partagent la même détestation du président socialiste et de ses idéaux de justice sociale. Alors, ils visent le même objectif, éliminer la menace communiste. Schaeffer, qui a désormais accès au commandant en chef de l'armée, propose même que la colonia serve de base pour planifier un coup d'État. On sait comment cette histoire se finit, tragiquement. Le 11 septembre 1973, un putsch militaire renverse le gouvernement démocratiquement élu d'Allende. Le palais présidentiel de La Moneda est bombardé par des avions de chasse. Avec une troupe de fidèles, Salvador Allende, mitraillette à la main et casque sur la tête, résiste jusqu'au bout. Il s'adresse pour la dernière fois au peuple chilien. Un discours puissant, plein d'espoir en ce jour noir. Un discours qui se termine par ces mots.
Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no se les pague.
D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison veut s'imposer. N'oubliez jamais que bientôt s'ouvriront à nouveau les larges avenues qu'empruntera l'homme libre pour bâtir une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain.
Et Allende meurt. Le général Pinochet devient l'homme fort du pays. Et une terrible répression s'abat sur les militants de gauche et les syndicalistes. Les États-Unis, qui ne sont pas étrangers au coup d'État, applaudissent. Confère cette transcription d'une conversation privée entre Nixon et le secrétaire d'État Henry Kissinger. Elle se déroule le dimanche 16 septembre, 5 jours après que la démocratie a été terrassée. Les deux hommes échangent quelques banalités, puis en viennent aux choses sérieuses.
Rien d'important de votre côté, Kissinger? Non, pas grand-chose. La situation au Chili s'améliore. Et bien entendu, les journaux se lamentent parce qu'un gouvernement pro-communiste a été renversé. Nixon, elle est bien bonne. Kissinger, au lieu de nous féliciter, sous Eisenhower, on aurait été des héros. Nixon, oui, mais n'oubliez pas que nous n'avons rien à voir dans tout ça. Kissinger, ce n'est pas nous. Nous avons seulement donné un coup de pouce en rendant les choses possibles.
À la Colonia Dignidad, on exulte. La menace rouge est écartée. La colonie va servir le nouveau pouvoir avec dévouement et enthousiasme.
Corazón contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así? Que se encabrita, ¿por qué palpitas? ¿No ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela, como en mar violento, la carabela, sí, la carabela, tú me desvelas? ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro. Me tratas lo mismo como a los perros, sí, como a los perros. Es mi destierro. ¿Cuál es mi pecado? Pa maltratarme, sí, pa maltratarme. Como el prisionero, por lo gendarme, sí, por lo gendarme, quieres matarme. Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí. ¿Por qué no cedes? Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento. Me das tormento, sin miramiento.
Aujourd'hui, Colonia Dignidad.
France Inter, Affaires sensibles.
Sous la dictature de Pinochet, le petit coin de paradis de Paul Schaeffer devient un véritable enfer pour les prisonniers politiques et autres opposants. Une cave est vidée, transformée en chambre de torture, mise à la disposition de la DINA, la police secrète de Pinochet. Sur ordre de Schaeffer, de grands trous sont creusés dans le domaine, ils serviront de fosses communes. Les prisonniers arrivent en car par dizaines et sont interrogés sauvagement. Coups, viols, électricité, tout est bon pour faire parler. Seuls quelques proches de Schaeffer sont mis dans le secret, mais des hurlements sont parfois audibles. En témoigne un homme qui enfant les a entendus. Il s'exprime dans le documentaire allemand Colonia Dignidad.
Juste au-dessus de la cave de torture se trouve l'atelier de couture. Georg Laube, 12 ans à l'époque, dort dans ce local.
J'étais sur un lit de camp, et juste en dessous, il y avait les cris. La dalle en béton était épaisse comme ça, mais toutes les nuits, j'entendais des cris terrifiants.
Et Schaeffer lui-même n'hésite pas à prêter main forte au bourreau. Ce qu'il n'a pas pu accomplir pendant la guerre, il le fait aujourd'hui, et sans état d'âme. Peut-être même avec délectation. Pour ressembler à ces bordes juifs, et les juifs doivent souffrir puisqu'ils n'ont pas reconnu le Messie, dit-il à ses victimes. Les tortionnaires chiliens savent qu'ils peuvent compter sur l'efficacité allemande, dont ils semblent être le symbole, le sordide avatar. Beaucoup d'opposants sont morts dans les geôles de la Colonia. Combien ? On ne le saura jamais, puisque les disparus de cette époque le sont toujours. Mais des dizaines, voire des centaines. Quelques-uns, cependant, ont eu la chance d'en sortir. Adriana Borges y a été torturée pendant 24 jours en 1975. Et elle se souvient, dans le documentaire allemand Colonia Dignidad.
Il passait de la musique, une différente pour chaque personne. À un professeur, il mettait Friandise, une chanson pour enfants. Dès que les premières notes résonnaient, le camarade savait qu'ils allaient venir le chercher pour l'interroger. Moi, c'était la petite musique de nuit de Mozart. Je n'ai plus jamais réussi à l'écouter.
Vivante, mais contrainte à l'exil, Adriana Borges fait partie de celles et ceux qui ont dénoncé sans relâche les exactions commises par le régime chilien et par ses sbires de la Colonia Dignidad. Dans un article de Libération en 2005, cette femme qui ne marchait plus qu'avec des béquilles, séquelles probables des tortures subies, raconte également ceci.
Je me souviens avoir senti que mes bourreaux se masturbaient pendant qu'ils me torturaient, soit avec de l'électricité, soit en me faisant violer par des chiens, et d'autres techniques que je ne veux pas aborder. On entendait tout le temps des cris. La lumière n'était jamais éteinte, et les repas étaient apportés à des heures complètement aléatoires pour éviter qu'on puisse se repérer dans le temps.
Schaeffer, lui, est aux anges. Tout va bien. Pinochet en personne lui fait l'honneur d'une visite en août 1974. Pour l'occasion, tous les bâtiments sont repeints, les colons se surpassent, un somptueux banquet est servi. Le dictateur reviendra souvent. Il aime passer ce week-end à la colonie. Son épouse aussi, qui s'enthousiasme pour ce paradis d'ordre et de propreté. Mais à partir de 1976, l'édifice commence à se fissurer. L'ONU publie un rapport sur les crimes de Pinochet. Tandis qu'en Allemagne, Amnesty International met en cause Schaeffer et sa colonie dans un document intitulé « Colonia Dignidad, propriété modèle allemande au Chili, un camp de torture dirigé par la DINA ». Le rapport s'appuie largement sur le témoignage de trois opposants torturés dans ce lieu. Eric Zott, Luis Pebles, qui avait vu le visage de Schaeffer dans la salle de torture, et Adriana Borges, dont nous venons d'entendre le récit glaçant. Et ce n'est pas la première fois que le nom de Schaeffer apparaît dans les journaux. En 66 déjà, un jeune Allemand qui avait réussi à fuir la secte avait alerté la presse chilienne, et un coin du voile s'était soulevé. Mais il était bien vite retombé. Face à Paul Schaeffer et à son entre-gens, un adolescent isolé ne faisait pas le poids. Mais cette fois, l'Allemagne se doit de réagir. L'ambassadeur du RFA, Santiago, est donc missionné par Bonn au cours de l'année 76 pour mener une enquête qui qui blanchit totalement la colonie. Bien sûr, le fait que l'ambassadeur reçoive chaque semaine un plein panier de charcuterie et de pâtisseries allemandes envoyées par la colonie n'y est probablement pas étranger. En 87, nouvelle alerte pour Schaeffer. Le ministre chrétien-démocrate Norbert Gluhm, en visite au Chili, demande à visiter la colonie à Dignidad. Gluhm a longtemps fait partie de la présidence d'honneur d'Amnesty International et, bien sûr, on lui oppose un refus. Dans l'avion qui le ramène en Allemagne, il déclare ceci aux journalistes.
Le fait est que cette colonie est une ferme modèle pour le mépris des êtres humains. Et nous sommes concernés, car ce sont des Allemands qui se sont rendus coupables.
Schaeffer sent le vent du boulet, mais il faudra encore de longues années avant qu'il ne chute. En 91, Pinochet quitte le pouvoir après 17 ans d'une dictature féroce. On estime qu'au moins 3000 personnes, militants, syndicalistes, sympathisants de gauche, ont été tués par le régime et ses sicaires. À la Colonia Dignidad, on prend quelques précautions pour faire disparaître les traces de torture et d'assassinat. Les fosses communes sont ouvertes, les cadavres, ou ce qu'il en reste, brûlés au napalm, les cendres jetées dans la rivière. On ne retrouvera jamais la moindre trace d'ADN qui aurait permis pourtant d'identifier certains disparus. Paul Schaeffer est confronté à un autre problème. Les années passant, son réservoir de jeunes garçons diminue. Il n'y a pas de naissance dans la colonie puisque les couples sont séparés et les relations amoureuses et sexuelles prohibées. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ce sont de jeunes Chiliens qui assouviront désormais les besoins de l'oncle éternel. Sous prétexte de stages de vacances, les enfants, surtout ceux à la peau claire, sont invités dans la colonie et y restent sous différents prétextes. Il en est ainsi de José Fraimbrares. Et lui aussi témoigne, dans l'édition dominicale du quotidien La Nación du 13 mars 2005.
J'étais un des favoris de Schaeffer. Mes relations sexuelles avec lui ont débuté à l'âge de 8 ans. Il était très doux, séducteur. Il était comme un père pour nous. Être avec lui signifiait avoir des privilèges. On ne travaillait pas, on pouvait se parfumer, on avait droit à du shampoing. Tous voulaient avoir cette place. Tous ceux qui ont moins de 50 ans aujourd'hui sont passés au moins une fois dans sa chambre. Schaeffer était très attirant. Il manipulait nos émotions.
Plusieurs jeunes Chiliens dans cette situation réussissent à être retirés de la colonie par leurs parents. Des plaintes pour abus sexuels sont alors déposées, mais pas au commissariat de Parral, la ville la plus proche où la police locale corrompue est au service de Schaeffer. Non, il faut aller à Santiago, la capitale. Et c'est la ténacité de Luis Enriquez, chef de la police nationale du Chili, qui finira par porter ses fruits. Enriquez est un homme bien. Voici le portrait qu'a embrossé la revue trimestrielle The American Scholar dans un long article consacré à la colonia Dignidad en février 2003.
Professionnel chevronné, Enriquez avait été au début des années 70 l'un des gardes du corps d'Allende et il se trouvait dans le palais présidentiel lorsque ce dernier s'est suicidé. Dans un pays où les conspirations sont légion, Enriquez croit fermement aux faits. La vérité n'a qu'une seule version. Il n'y a pas de vérité différente, affirme-t-il. C'est une vision du monde peu sophistiquée, mais non corrompue par l'influence de Schaeffer.
Une enquête, une vraie, commence en 1996. Elle va durer longtemps. Enriquez revient 7 fois à la charge pour interpeller Schaeffer. Le policier pense initialement le prendre par surprise en menant une perquisition de grande ampleur dans la colonie. Mais c'était sans compter sur la police locale qui prévient la secte. Et dès que les forces de l'ordre sont en vue, les cloches sonnent, les colons s'allongent devant les roues des véhicules, chou blanc. À 2, 3, 6 reprises, Schaeffer lui glisse entre les mains. Il se cache dans un bunker, confortablement aménagé, quelque part dans la forêt. Mais il continue à y faire venir chaque soir de jeunes garçons. Et ce sont 2 d'entre eux, un Chilien et un Allemand, qui, ayant réussi à s'enfuir, informent Enriquez de l'endroit précis où Schaeffer se terre. Et évidemment, averti, l'oiseau s'est envolé. Il y a sur le terrain un avion privé et une piste de décollage. Le gourou se réfugie alors en Argentine avec une poignée de fidèles, dans un domaine qu'il avait acquis sous un faux nom. Il faut attendre mars 2005, 9 ans après le mandat d'arrêt lancé par la justice chilienne, pour que Schaeffer, dont une journaliste de la télévision a longuement cherché la trace, finisse par le repérer et prévienne la police. le fugitif est arrêté, enfin. Paul Schaeffer est condamné à 20 ans de prison pour abus sexuels et coups et blessures sur mineurs. En revanche, dans le Chili de l'époque, pas encore prêt à regarder son histoire en face, les autres crimes perpétrés par le docteur Schaeffer, torture et meurtre d'opposants chiliens, ne sont pas jugés. Non, le sujet est encore trop sensible. Militaires et politiques y font obstacle, à l'unisson. Schaeffer n'exprimera jamais le moindre remords, le moindre repentir. Il meurt en prison en 2010, en n'ayant purgé que le quart de sa peine. 6 ans plus tard, enfin, et par la voix du ministre social-démocrate des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, l'Allemagne reconnaît qu'elle porte une lourde responsabilité morale dans le peu glorieux épisode de la colonie Dignidad. Mais la colonia n'est pas morte. Enfin, pas tout à fait. À la fin de la dictature, le maudit Falanster a changé de nom. Désormais, il se nomme Villa Baviera, une appellation conforme à ces paysages qui évoquent la Bavière. Les barbelés et les miradors ont disparu. Le lieu abrite un hôtel et s'est transformé en parc de loisirs. Mais nombre de colons y vivent encore. Certains se sont mariés, ont fondé une famille. Plusieurs sont restés faute de savoir quoi faire. Ils n'ont pas ou guère eu d'instruction, pas de diplôme, une maigre pratique de l'espagnol. Sur le site internet de la Villa Baviera, on est peu bavard sur le passé. À la rubrique Histoire, voici ce qu'on peut lire.
Ce lieu a connu de longues périodes de tristesse, de cruauté, de surveillance, de punition et d'assujettissement de personnes, d'enfants et de familles entières qui n'ont pu vivre en liberté. Une histoire longue et difficile à raconter. Aujourd'hui, la vie à la Villa Baviera a changé. Des familles peuvent se former, des enfants naître et grandir, et une vie se développe entre Chiliens et Allemands, nouant des amitiés, vivant ensemble.
Tous affirment n'avoir rien su des tortures qui se pratiquaient ici. Adriana Borges, qui a reçu des excuses de la part du porte-parole de la colonie pour les horreurs qu'elle y a subies, n'a pas cru à leur sincérité. Certains proches de Schaeffer étaient des bourreaux, et ils sont toujours là, affirme-t-elle à une journaliste de Libération en 2005. Les familles de disparus de Parral, la ville voisine, partagent ce sentiment. Elles ne voient dans l'ouverture de la colonie qu'un changement cosmétique pour attirer les touristes et faire oublier que de nombreuses personnes sont peut-être enterrées là.
Les familles chiliennes dont des proches ont disparu sans laisser de traces durant la dictature Pinochet n'oublient pas non plus. Elles continuent de se rassembler sur ces lieux de l'horreur, réclament l'ouverture d'enquêtes sur le sort de leur mère, père ou enfant, et demandent aux anciens colons de sortir enfin du silence.
En visite officielle au Chili le 29 janvier dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz, social-démocrate, et le président chilien de gauche Gabriel Boric ont décidé de créer un lieu de mémoire et un monument aux victimes de la colonia Dignidad dans l'enclave que Schaeffer tenait d'une main de fer. C'est sans doute une bonne nouvelle. Mais on aurait préféré, bien sûr, qu'en 66, le jeune homme qui avait fui et avait raconté au Chili, puis en Allemagne, ce qui se passait dans le secret de la très fermée colonie de la Dignité, ait été entendu.
Descolora la verdad cuando el sol. tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Colonia Dignidad. Notre invité, maître William Bourdon, avocat. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connu pour avoir été secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme et votre nom est généralement associé à des affaires concernant la défense des droits humains. Et si vous êtes aujourd'hui notre invité, c'est parce que vous avez été l'avocat de familles dont les proches ont disparu au Chili pendant la dictature. Est-ce que cette recherche croise des victimes de la Colonia ?
Bien sûr, la Colonia Dignidad, elle va apparaître assez vite pendant l'enquête. D'abord, il faut dire que ça a été une enquête menée par le juge d'instruction de Loire, tout à fait hors norme, à la mesure du caractère hors norme des crimes, avec des moyens aussi considérables, des enquêteurs dédiés, avec une trentaine, quarantaine de commissions rogatoires internationales à travers le monde, et puis aussi, en tous les cas, c'est la conception que j'en ai, qu'on doit en avoir quand on agit pour des victimes des crimes les plus graves et des victimes qui portent, au-delà des fantômes de leurs parents, une action pour l'humanité tout entière, une conception très proactive du rôle de l'avocat. Donc je me suis beaucoup démené pour faire entendre des témoins, j'étais au Chili plusieurs fois, connecté un certain nombre de gens les uns avec les autres. Mais la Colonia Dignidad, elle va apparaître parce que Alphonse Chanfraud, un des Français disparus, a été identifié dans cette colonie. Et par ailleurs, le juge d'instruction sent qu'il n'est pas très loin de la fin de sa carrière. Il faut qu'il termine cette trajectoire professionnelle de la plus belle des façons. Donc, il va se documenter, il va entendre un certain nombre de journalistes, d'historiens, et il va reconstituer un fragment de l'histoire de la Colonia Dignidad. Il va même demander à y aller. Il va se faire communiquer toutes les archives historiques disponibles. Et c'est comme ça que la Colonia Dignidad va aussi surgir à travers le personnage de Paul Schaeffer, qui va faire l'objet d'un mandat d'arrêt, mais qui va décéder, mourir en prison, comme vous l'avez rappelé, avant le procès qui va se terminer en France en 2010.
Un grand regret pour la justice, évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire-là ? Du Chili, de la survivance d'idées comme ça, qu'est-ce que ça nous dit ?
Ça nous dit que, d'abord, y a une capacité des grands bourreaux, des grands pervers à instinctivement faire alliance. C'est l'alliance des bourreaux et des pervers. Et cette alliance des bourreaux et des pervers, elle va s'exprimer de façon absolument tragique dans cette espèce de mise à disposition par Paul Schaeffer de son grand centre aéré formidable, qui va être en fait un lieu pas simplement d'abus sexuels, et un lieu de torture. La deuxième chose, c'est que Paul Schaeffer va bénéficier quand même d'une mansuétude et d'un silence, voire d'un déni, pas simplement des autorités allemandes, pendant de très 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 nombreuses années. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme toujours, l'activisme courageux, ici d'un militant, d'un député allemand, pour que tout d'un coup les masques tombent. Et ils vont tomber très tardivement, finalement, beaucoup trop tardivement. Vous demandez si un regret, non, il n'y a pas vraiment de regret. Il faut se souvenir que le procès de Paris, ils étaient tous absents. Est-ce que Paul Schaeffer se serait senti souillé par une condamnation de plus? Quand on est un grand pervers, on est rarement souillé par l'action du juge. Non, le vrai regret, c'est que ces hommes qui ont été convoqués en quelque sorte par les mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction n'aient pas eu le courage, un minimum de dignité qui devait vis-à-vis des victimes, de se présenter devant les juges français, ou à minima, d'être présenté par des avocats. Et dans leur boycott du procès, c'était une forme de crachat à l'égard de tous les juges, d'ailleurs, pas simplement les juges chiliens, les juges français, pour bien montrer que jusqu'au bout, leur ADN, c'était l'arrogance et le sentiment, pas simplement d'impunité, mais le sentiment d'avoir agi pour le bien commun de l'humanité.
Alors le problème dans ces affaires-là, c'est que ce soit du côté chilien ou allemand, il y a toujours cette volonté de réconciliation nationale après des périodes troubles. Évidemment, c'est jamais bon pour les enquêtes, c'est cette démarche-là.
Bon, ce dont vous parlez, c'est une tension, c'est une contradiction aussi vieille que l'humanité.
Mais oui.
À chaque fois qu'il y a eu des grands traumatismes collectifs ou des guerres, il y a cet antagonisme très puissant entre le désir de paix, et donc le désir de conciliation, qui peut passer par des formes d'amnistie ou d'absolution, et puis en même temps le désir de justice.
Mais
en même temps le désir de justice. Et les deux parfois se carambolent. Il y a quelqu'un qui a eu une intuition formidable, c'est Mandela, qui a dit bon, on pourra jamais ouvrir toute la boîte de Pandore judiciaire. Donc, qui a instauré cette idée que l'accès à la vérité, s'il était massif, s'il était institutionnalisé, pouvait en quelque sorte compenser le fait que tous les bourreaux n'étaient pas jugés. C'est les commissions qu'il a instaurées où les gens venaient avouer, s'expliquer en contrepartie de quoi ils bénéficiaient d'une forme d'amnistie. On peut le discuter, bien sûr, indéfiniment. Mais ce qui est important dans l'histoire chilienne, c'est que ce sont les juges européens qui ont réveillé les juges chiliens. C'est ça, le caractère tout à fait exceptionnel à travers l'histoire de la justice mondiale. C'est le coup de maître, le coup de force du juge Garçon qui apprend que...
Quel combat
Qui apprend que...
Espagnol, c'est ça.
Espagnol, le juge de Madrid.
Combat des années.
Et qui va, en secret, clandestinement, avec quelques amis, se dire, il est à Londres, mécanisme de compétence universelle, Londres est obligé d'intercepter les suspects de crimes internationaux, j'y vais en défiant toute une série de principes, il n'alerte pas sa hiérarchie, il fait un coup de maître. Et il écrit à ce moment-là la grande histoire. Et ensuite, quand je suis saisi par trois familles, Pell, Chanfraud et Klein, Sophie Thonon est saisie par la famille Claudet, évidemment, pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, quand je reçois ce mandat quasi divin, si je puis dire, puisqu'il est aussi pour l'humanité, je travaille de façon acharnée, je sollicite mon imagination, des professeurs de droit, Philippe Texier, regretté Louis Joinet, et on convainc le parquet de Paris, de dire quelque chose qui n'avait jamais été dit par un juge français. Le crime de disparition n'existe pas dans l'arsenal juridique du code pénal français. Donc, on va le qualifier séquestration, arrestation arbitraire. Mais il n'est pas prescrit. Il n'est pas prescrit. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, la prescription est suspendue.
Et donc l'action judiciaire peut continuer.
Donc, ce qui avait été conçu par les bourreaux, comme une façon d'organiser leur impunité, c'est-à-dire, on fait disparaître le corps, va se retourner contre eux. C'est-à-dire que leur sinistre, non seulement ne va pas être récompensé, mais par un effet de boomerang, le droit qui montre aussi sa capacité d'inventivité et de souplesse, finalement va devenir un outil, un moyen pour les familles endeuillées et éplorées, pour obtenir justice, justice pas totalement de façon satisfaisante, mais justice quand même.
C'est un succès le fait qu'il y ait un procès, ne serait-ce que ça, c'est un succès quand même. Alors évidemment, on aurait voulu plus. Mais est-ce que vous considérez comme un succès déjà?
Ouais, moi j'ai du mal avec les mots de succès ou de victoire. C'est pas simplement une
question. Quelque chose de au moins utile, quoi.
C'est certainement un aboutissement qui laisse un petit parfum d'inachevé. Mais qu'est-ce qui ne laisse pas un parfum d'inachevé? C'est certainement un aboutissement en tous les cas pour les familles avec lesquelles j'ai noué des relations de grande affection, de grande tendresse et que je salue au passage pour celles qui m'écoutent. Évidemment, ça a brisé une loi qui semblait éternelle, qui était la loi de l'impunité. Ça a réveillé les juges chiliens, modestement, on y reviendra peut-être. Et ça leur a donné aussi le sentiment que l'obstination avec laquelle elle s'était battue contre le danger de la résignation, l'obstination a été finalement récompensée. Et donc, de ce point de vue, oui, ça fait partie des petites œuvres de ma vie professionnelle pour lesquelles j'ai un petit parfum de fierté.
Oui. Voilà, au moins ça, quand même.
Au moins ça, ouais.
Vous me l'accordez. On se retrouve dans 3 minutes, William Bourdon, après écouter Arthur H. La vie.
régime, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie a choisi. La vie t'a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée et une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie. L'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tend la main, la vie. La vie t'a repris. Oh, la vie t'a repris.
France Inter. Affaires sensibles.
William Bourdon, William Bourdon, parlez-moi des juges chiliens, de la façon dont vous avez pu travailler avec eux, leur état d'esprit, dans une justice qui était redevenue, j'imagine, une justice d'état de droit en démocratie. Comment ça s'est passé?
Il y a eu quand même une phase intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas disloqué l'appareil pinochettiste, tous les réseaux, tout l'entre-gens qui existait comme ça, par un coup de baguette magique. D'ailleurs, c'était pas possible, et l'histoire enseigne qu'il faut cette période transitionnelle pour espérer, à un moment donné, éradiquer le venin, le fiel qui subsiste et qui court dans les institutions. Non, ça a réveillé les juges chiliens, mais modérément, parce que il y a eu à la fois ces réseaux très puissants de l'appareil militaire chilien, avec sans doute des chantages clandestins, et puis une classe dirigeante qui pas du tout envie, qui n'était pas du tout enthousiaste qu'on vienne comme ça rendre transparente toute une série de d'horreurs avec lesquelles parfois ils avaient été au moins à minima moralement ou politiquement complices. Donc il y a eu un certain nombre de procédures. Au moment du procès à Paris en 2010, il y a à peu près 700 procédures, il y a 300 personnes qui ont été inculpées, il y a 66 personnes qui sont détenues. Mais tout ça va un peu se déliter. Il va y avoir des conditions de détention pour des personnes qui sont souvent assez âgées, qui vont être jugées scandaleuses. Il va y avoir la loi de la semi-prescription qui fait qu'on va réduire considérablement certaines peines. Mais il va y avoir ce personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle le juge Gusman.
Ah oui.
Le juge Gusman, qui était un peu l'alter ego du juge Leloir, le Balthazar Garçon chilien, qui était un homme de droite au départ. Les pinochettistes ne l'ont pas vu venir. C'est toujours comme ça que l'histoire avance le mieux. C'est quand on est, non pas trahi, mais qu'on est surpris par les siens. Et lui, il va surprendre tout le monde, parce qu'il va dégoûter, parce qu'il va découvrir, il va mener un certain nombre de procédures avec beaucoup plus de courage que les autres. Mais Il y a beaucoup de gens au Chili qui considèrent que le travail judiciaire reste profondément inachevé. Il y a eu cette commission Vérité-Réconciliation qui a participé à ce travail mémorial qui d'ailleurs reste éternel, mais manque dans l'histoire chilienne un très grand procès public, comme il y en a eu en 1996 à Buenos Aires, où le monde entier a vu ces chefs d'État sanguinaires dans le box s'expliquer devant l'opinion publique mondiale. Manque comme ça, dans l'histoire chilienne, un grand procès des dignitaires. Étant observé que les civils, les dirigeants civils ont été très largement épargnés par les juges d'instruction chiliens.
Alors, il ne vous a pas échappé que dans le récit, on a passé un document entre Nixon et Kissinger, son secrétaire d'État. On connaît le rôle des États-Unis et de la CIA dans l'instauration d'un régime fasciste, donc contre le communisme, c'est cette logique de la guerre froide. Et vous avez demandé au juge Roger Leloir qu'il convoque Henry Kissinger comme témoin au moment où l'ancien secrétaire d'État se trouvait de passage à Paris. Quel était votre objectif ?
Bah écoutez, honnêtement, c'est un des souvenirs les plus piquants de ma vie, parce que je me souviendrai du visage de Roger Leloir quand je dis « Kissinger est là, il faut le convoquer ».
Oui, j'imagine.
Il tombe de sa chaise, le juge. Bon, je récidive, je fais des notes, il est à l'hôtel Ritz, etc. Et puis finalement, séduit par l'idée, il va dépêcher deux policiers de la brigade criminelle qui vont se rendre à l'hôtel Ritz, remet le pli à Kissinger qui est dans sa suite, qui pique une colère absolument gigantesque. Et qui a la trouille, et qui fout le camp par l'arrière de l'hôtel en catastrophe avec sa voiture blindée, qui se réfugie à l'ambassade américaine, et qui file comme un rat prenant le premier avion. Alors déjà, c'est une satisfaction pour des millions de gens de dire que ce type, qui n'a jamais craint personne, et qui a meurtri une grande partie de l'humanité par les forfaits dont il a couvert, les grands forfaits américains, et puis avoir quelques minutes de trouille, c'est déjà en soi une certaine satisfaction. Ensuite, il y a quelqu'un qui est dépêché par l'ambassade américaine, qui va voir le juge Leloir, qui remet un pli en disant, mais il n'y a pour rien. Il n'a connu le plan Condor que 1976.
Donc assassinat d'opposants, y compris à l'étranger.
Le plan Condor, c'est la plus grande association de malfaiteurs au monde, créée par des chefs d'État.
Argentins, chiliens, brésiliens, enfin tous les...
Bolivie, Brésil, ouais. Qui ont mutualisé leur expertise, leur service d'enseignement pour arrêter, se livrer les opposants qui pensaient à tort trouver quiétude et abri ailleurs que dans le pays qui les pourchassait. Voilà. Et le plan Condor va être au cœur de l'instruction du juge Pinochet, comme du juge Garçon, puisqu'à ce moment-là, les autorités américaines vont déclassifier les archives de la CIA. Donc on va avoir toute une série de procès-verbaux qui vont enseigner que Kissinger est au cœur de tout ce dispositif, qu'il le suit, qui se réjouit d'ailleurs des résultats arithmétiques, et le mot est horriblement cynique, de cette association de malfaiteurs. Le juge français va d'ailleurs obtenir la déclassification du ministère de la Défense, du suivi par les autorités françaises du plan Condor. Donc voilà, une histoire extraordinaire pour ces familles, que j'ai porté avec fierté et émotion, mais qui a aussi participé à l'écriture de la grande histoire.
Dernière chose, il nous reste une minute, les disparitions. C'est terrible pour les familles victimes, puisque quand il y a disparition, on ne retrouve pas le corps. Et comment fait-on son deuil, selon l'expression souvent utilisée? Vous parlez, vous, d'armes de destruction psychologique massive. Ça rejoint ça?
Oui, je pense que dans le cerveau de ces bourreaux, ils avaient acheté leur impunité, mais soustraire le corps aux ayants droit, à la famille, fabriquer cette intranquillité éternelle sur « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et s'il n'était pas mort ? Et s'il survivait comme ça, quelque part, dans un endroit, dans une caserne ou... » c'est un traumatisme comme une bombe à retardement, comme ça, comme une mine antipersonnelle qui vient psychiquement créer un traumatisme éternel. C'est la signature de l'hypercynisme de l'imaginaire de ces bourreaux chiliens.
Et qu'on retrouvera aussi en Argentine.
Qu'on retrouvera en Argentine et qu'on retrouve aussi malheureusement dans bien des pays, en Égypte, en Algérie aujourd'hui.
Bien sûr. Merci infiniment, William Bordon.
Je vous en prie. Merci
à
vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Colonia Dignidad, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Colla.